France Inter. Le 6-9 du week-end. Delvaux.
Et voici Laurent Delmas qui vient faire son cinéma. Bonjour Laurent.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à Laurent. Toutes et à tous.
Avec d'abord cet indice sonore.
Démocratie stonk.
Democracy is fragrant.
Liberty stonk.
Liberty is odious.
Free spraken stonk.
Freedom of speech is objectionable.
Tomania mit der grootste army in der Welt.
Tomania has the greatest army in the world.
Der grootste navy in der Welt.
The greatest navy in the world. But to remain great, we must sacrifice. We must tighten our belt.
Charlie Chaplin, le rôle du dictateur dans le film du même nom. Ça date de 1940, Laurent.
Oui, alors nous célébrons aujourd'hui, comme chaque année, le 8 mai 1945, date de la capitulation allemande signée à Berlin. Cet événement d'abord militaire est assez peu représenté en tant que tel au cinéma. Mais au fait, pendant que cessait enfin en Europe le bruit des bottes et des armes, que voyait-on au cinéma dans cette France libérée quelques mois plus tôt, me suis-je demandé. Parce que, oui, en mai 1945, les cinémas font le plein et plébiscitent littéralement un film, celui dont nous venons d'entendre un extrait, Le Dictateur de Charlie Chaplin, portrait au vitriol d'un faux Hitler plus vrai que nature à travers le destin d'un petit barbier juif du ghetto. Ce film, qui date effectivement, Eric, vous avez raison, de 1940, mais qui, gouvernement de Vichy oblige, est resté inédit durant l'occupation, rassemble à partir du mois d'avril 1945 plus de 8 millions de spectateurs français. Le dictateur qui avait enthousiasmé les spectateurs américains juste avant l'entrée de l'oncle Sam dans la guerre symbolise donc aux yeux des Français la fin de cette même guerre. Avec 5 millions d'entrées chacun, les plus inoffensifs, Le Livre de la Jungle de Zoltan Korda et La Cage de Rossignol de Jean Dréville, démontrent que l'insouciance a repris ses droits dans les salles obscures, tandis que s'effondrait le Troisième Reich. Et c'est toujours durant cette même année 1945, en mars très exactement, qu'on a pu voir les deux volets du chef-d'œuvre du tandem Carnet-Prévert, Les Enfants du Paradis, miracle d'un film tourné dans les derniers soubresauts de l'occupation. Les bombes s'arrêtent enfin et pendant ce temps, les spectateurs français de 1945 ont applaudi à quelques mois d'intervalle la sublime Micheline Prel dans deux films magnifiques, Boule de Suif de Christian Jacques et Falbala de Jacques Becker. Dans le premier, on adapte Maupassant et ses valeurs résistantes. Dans le second, on célèbre la haute couture française et son éternel brio. Décidément, le cinéma français est entré dans la paix mondiale avant même le 8 mai 1945. Et il n'est pas le seul, hein. Lorraine Bacall et Humphrey Bogart, par exemple, vous savez ce qu'ils ont fait le 21 mai 1945? Ben, ils sont mariés. Bref, en cette année pas comme les autres, c'est la vie qui va. Et puisqu'en France, tout commence et finit par des chansons, on le sait bien, on découvre que toujours en 1945, le prolifique et mésestimé Christian Jacques signe un second film, un autre film, adapté tout simplement de Carmen, la nouvelle de Mérimée. On y entend également la musique de Bizet, et singulièrement cet air-là qui s'est fait une petite notoriété.
L'amour, tout d'un coup, on fait silence, on fait silence.
L'air du toréador, donc extrait de Carmen de Bizet, ici avec le baryton Ludovic Thésier. Merci beaucoup Laurent Delmas. À tout à l'heure, ce sera juste après le journal de 10h. On aura tout vu avec Christine Masson, vous recevrez...
Dominique Besnéard, oui, qui viendra nous présenter ses films de chevet, de La Règle du Jeu à La Scandaleuse de Berlin, en passant par Des Hommes et des Dieux.
La Scandaleuse de Berlin, là on sera dans l'après-guerre. Bravo. À Berlin en 1946.
Absolument.
Avec Marlène Dietrich.
Évidemment.